Et nous accueillons immédiatement Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Quand Andrew Shaw de le réintégrer dans l'alignement, c'est certainement pas l'agenda de Claude Julien, puis pas pour les mauvaises raisons. Ça serait difficile de briser sa combinaison d'attaquant de samedi qui a si bien fait à Boston, Danny.
Ah non, c'est sûr, tu
passes même pas
commences
ça.
Ben non. Tu commences pas à bouger les choses qui fonctionnent, même si t'as des gars qui sont plus ou moins contents de la situation. Ça va toujours arriver, là. Tout le monde veut jouer. L'important, c'est de pas être une distraction pour tes coéquipiers.
Et en même temps, quand tu regardes l'alignement sur papier ou même sur la glace chez le Canadien, je me dis qu'il y a pas personne qui a un tempérament ou qui a une prestance assez forte pour tirer l'équipe ni sur un bord ou de l'autre. Et je parle surtout négativement. Même si quelqu'un, ça faisait pas son affaire, il n'y a pas d'élément qui a assez d'influence sur tous les autres. C'est peut-être Weber qui est même pas là pour contaminer l'équipe. C'est pour ça que c'est un succès d'équipe collectivement. Et si ça devait être des insuccès, ben le gars va être isolé s'il décide de faire la baboune.
Ouais, non, c'est sûr que quand tu regardes le statut des joueurs dans l'équipe, il n'y a personne qui peut revendiquer du
un
temps
statut,
de glace en
ouais.
Regardant derrière, disant, vois-tu tout ce que j'ai fait dans la Ligue nationale? Il y a, comme tu le dis, là, il y a peut-être Shea Weber, il y a peut-être Price, mais même là, c'est pas une équipe comme ça. En tout cas, moi, je pense pas là, que dans
plus facile à coacher.
C'est sûr que c'est plus facile à coacher, mais en même temps, il y a toujours la même affaire. Moi, je trouve que le Canadien a changé beaucoup de choses cette année. Avec l'équipe qu'ils ont, s'ils avaient joué le même système que l'an passé, c'est sûr que ça aurait pas fonctionné.
Mm-hmm.
Donc, c'est une équipe qui est plus dynamique. L'entraîneur voulait avoir des joueurs plus dynamiques. Il y en a. Le concept d'équipe est beaucoup plus fort. Maintenant, j'entendais le directeur général parler tout à l'heure, là, Marc Bergevin, il est encore tôt. C'est vrai, c'est 10 matchs, mais le premier objectif est atteint. Il se place dans un groupe tout de suite. Oups, on est dans le groupe de tête. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est moins une bonne nouvelle pour, entre autres, les Panthers à Floride qu'on voyait un peu plus haut.
Mauvais départ.
Peut-être même quand on regarde les champions défendants qui sont quand tu regardes les Devils du New Jersey,
ouais,
les Devils du New Jersey aussi, c'est en dessous un petit peu des attentes, mais bon, la saison est jeune.
La bonne nouvelle,
les Devils, il leur reste deux matchs, ils ont deux matchs en main sur ces équipes-là.
Il y a ça. 5 des 10 meilleures équipes actuellement dans la ligue sont des équipes de la division Atlantique. On le savait que l'Atlantique serait forte, n'est-ce pas, Danny? C'est pas une surprise que les équipes de l'Atlantique soient fortes, ce qui est peut-être il y en a 4 sur 10, pardon. Et donc, Toronto savait qui serait là. On savait que Tampa Bay serait là. On savait que Boston serait pas loin. Mais là, le Canadien qui vient de passer en avant de Boston avec un match en main avec la victoire de samedi, c'est une performance quand même qui indique... Tu sais, hier, les Red Sox de Boston ont gagné la Série mondiale. Ils étaient les meilleurs au camp d'entraînement, les meilleurs en saison. À un moment donné, il y a des signes aussi qui vont avoir des répercussions sur l'ensemble de ta saison quand ça part bien, Danny.
Ben, c'est sûr. Mais tu regardes aussi les chiffres. On parlait des
il y avait quand
même des règles d'or. Tu sais, il y a des choses que tu peux pas perdre de vue. Ton différentiel est important. Ton 3 buts par match en moyenne, offensivement, est super important. Et la combinaison du différentiel et du 3 buts par match, tu regardes toutes les équipes qui ont moindrement de succès actuellement. Tout le monde est 3 buts par match. Buffalo est juste sur le bord, là.
Ouais.
Puis ils sont pas tout à fait 3 buts par match. Alors, je pense une règle qui commence à faire son bout de chemin, c'est au départ, c'est 3 buts par match. Après, ton différentiel, c'est ce qui fait la différence.
Un des moteurs de l'offensive dans cette jeune saison actuellement, c'est numéro 13, Max Domi.
Mm-hmm.
Je pense pas qu'il y a personne qui aurait pu prédire qu'il connaisse un début statistique semblable. C'est sûr qu'aux mises en jeu, il est pas au-dessus de 50%, mais comme fabricant de jeu, comme vision et comme niveau de combativité, t'attendais-tu à autant de
ça.
Lui?
Non, je suis surpris de sa prestation. Moi, il est en train de me faire ravaler mon évaluation de début de saison, puis tant mieux, parce que je pense que c'est un gars qui est au cœur actuellement du succès de l'équipe.
Vraiment.
Je ne m'attendais pas à avoir un gars comme lui. Tu sais, bon, mettons, Tatar a 3 buts. Lui, il a 10 points. Puis 11 points, pardon, puis il y a 5 buts en 10 matchs. Puis ce que je trouve entre les deux, c'est que j'ai vu Domi faire beaucoup de choses lorsqu'il n'y a pas la rondelle. J'ai vu faire beaucoup de choses pour générer de l'offensive. J'ai vu faire beaucoup de choses pour provoquer des situations pour ses coéquipiers.
Il est engagé.
Donc, j'essaie de faire une distinction entre deux joueurs qui sont pourtant dans le haut du classement au niveau des buts et tout ça. Il y en a un qui donne beaucoup plus à ses coéquipiers. Je pense que Domi, c'est sa grande force jusqu'à maintenant. Puis,
ça vient de souligner, Tatar est moins 4, aucun point ses 4 derniers matchs. Heureusement, on s'est relayé du côté de l'attaque. C'est pas toujours les mêmes qui vont produire, mais t'enchaînais, je te laisse enchaîner.
Oui, j'allais dire simplement que pour moi, une des surprises ou un des héros obscurs, c'est quand même c'est Lekkonen. Je trouve que Domi et Lekkonen font beaucoup de choses qui sont pas sur la feuille de pointage, puis qui permettent quand même au trio d'avoir productivité en termes de groupe, mais aussi temps de possession en territoire adverse, puis chance de marquer de qualité à cause justement de la chimie qui s'établit entre les deux, parce que c'est deux travailleurs, Lekkonen et Domi, qui alimentent aussi Jonathan, puis je sens que Jonathan Drouin bénéficie de cette énergie-là, semble carburer à ça.
Vraiment, c'est perceptible à l'œil nu de par son enthousiasme, même quand c'est pas lui qui marque, mais quand c'est Domi ou tu sais, quand son trio provoque des choses. Et je vais te poser une drôle de question, mais ça va nous permettre de bien saisir qui sont les éléments indispensables de cette équipe-là, parce que dans son point de presse midi, Marc Bergevin, tu sais, bon, est amené à expliquer le fait que des joueurs voyaient pas d'action comme Sherbach et compagnie. Je souhaite pas te blesser, mais à un moment donné, ils vont avoir de l'action, mais quel joueur canadien pourrait, c'est-à-dire quel joueur pourrait subir une blessure et que ça ferait le plus mal aux Canadiens, si tu me suis, Danny? Est-ce que c'est Domi ou c'est un autre élément? Qui manquerait le plus cruellement aux Canadiens s'il devait s'appeler? Matthews va manquer un mois avec les Leafs. Nous, ça serait quoi la pire nouvelle qu'on pourrait entendre chez les Canadiens en ce moment?
Philippe Dano.
Ah oui? Oui. À ce point-là?
Oui.
C'est vrai qu'il a joué tout un match samedi, hein?
Mais Philippe Dano, actuellement, là, c'est le joueur qui passe le plus sous le radar. À cause de ce qu'il fait, les mises en jeu, son jeu en désavantage numérique, les tirs bloqués, la fiabilité, écoute.
Alors moi je l'apprécie là, mais
c'est un joueur qui fait tout très très bien. Puis il y a beaucoup de joueurs qui jouent bien chez le Canadien, mais tu peux dire entre lui et Domi, c'est sûr que tout le monde va tenter de dire Domi en premier. Je comprends ça, mais je regarde au niveau du temps de jeu, dans les situations, la palette est plus large pour actuellement, je trouve, pour Philippe. Je trouve qu'il fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses très, très bien pour l'équipe. S'il devait le perdre, ce serait une situation qui serait très difficile.
Particulièrement dans la salle des mises en jeu, oui, t'as raison de souligner cet aspect-là. Ouais. On revient tout de suite, Danny, on va faire une courte pause et quelques autres points que nous aborderons. Tu as déjà entendu ça, toi, un coach, lui-même se remettre en question, comme Mike Yo le fait à Saint-Louis il y a quelques jours, je trouvais ça vraiment spécial, mais d'autres sujets concernant le Canadien dans un instant. Avec Danny Dubé, aux amateurs de sport, on aime souvent parler de hockey en général, mais d'offensive particulièrement avec Danny, puis c'est assez étonnant, c'est sûr que la saison est jeune, l'échantillon est encore mince, mais de voir que les Bruins de Boston, avec un trio parmi les meilleurs de la Ligue, avec Pasternak comme un des meilleurs francs-tireurs, ont une production offensive qui est moindre que celle du Canadien. C'est renversant d'une certaine façon. 33 buts en 10 matchs pour le Canadien, 34 buts en 11 matchs pour les Bruins de Boston, alors que le Canadien ne compte pas sur un joueur d'un tel acabit, Danny. Alors, c'est vraiment la recette collective là, qui permet de... C'est pas l'apport des défenseurs qui vraiment là, engraissent la fiche offensive du Canadien, à part Petrie, que remarque qu'il joue très bien.
Oui. Non, écoute, t'as une belle contribution élargie. Je pense que c'est une force chez le Canadien. C'est une force qui devra continuer de grandir parce qu'il ne faut pas perdre de vue que si tu veux parler des Bruins, il leur manquait quand même 4 défenseurs réguliers contre le Canadien, que leur gardien n'a pas joué un grand match. Mais le Canadien en a profité. Moi, ce que j'aime, c'est quand l'adversaire pour rendez-vous, le Canadien, les fait payer.
Ramasse des points.
Oui, monsieur. Puis ça, c'est ça une saison de hockey. T'as jamais, faut que tu puisses saisir l'opportunité quand elle se présente. Puis c'est ce que le Canadien réussit à faire. Puis ça, ben, ça leur appartient. Puis c'est tout à leur crédit. Mais ceci étant, c'est clair que plus ça va monter en saison, plus c'est un crescendo, plus le niveau de compétition va être élevé. Donc, les meilleurs joueurs de l'équipe vont être sollicités. C'est pour ça que d'une place à l'autre, tout le monde dit pas mal la même chose. Les entraîneurs dans la Ligue nationale savent que la capacité à augmenter le niveau de jeu de tes meilleurs joueurs, c'est un peu ce qui te permet d'aller loin. C'est quand tu regardes les Crosby et compagnie qui ont fait qui ont établi des standards d'excellence dans la Ligue nationale, les Tays et Kane et compagnie. Leur grande qualité, ça a été d'être en mesure de monter leur niveau de jeu à mesure que les exigences ou que le standard s'élevait. Fait que ça c'est le talent pur. Après, c'est sûr que c'était pas le désir puis la détermination, tu te rends même pas là, là. Mais pour pas que les gens mélangent que ce que je suis en train de dire, ça arrive des fois, je prends le temps de bien expliquer ce que je veux dire. C'est clair que à un moment donné, ton noyau de joueurs, plus il est talentueux, plus il est dynamique, plus il est résistant, résilient, plus il te permet d'augmenter ou de maintenir ton rythme ou de poursuivre. Tu sais. Alors, si l'enjeu est grand chez le Canadien, ça va être une saison extrêmement intéressante pour ça parce que
on sait qu'on a beaucoup de joueurs. Saison, là, c'est ça.
Oui, exactement. Puis il y a beaucoup de joueurs. On a hâte de voir c'est où la limite.
Oui.
C'est eux qui vont la pousser, la limite. Là. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a personne qui peut dire jusqu'où ils peuvent aller.
Vraiment. Dans le cas de Kotkaniemi, il est revenu sur le sujet parce que c'est Marc Bergevin qui répondait aux questions. Bien vite sur lui parce que, juste pour savoir, pour toi, là, dans l'ordre, dans la hiérarchie des joueurs de centre, il y en a-tu un meilleur que lui comme troisième centre actuellement chez les Canadiens en l'absence de Plekanec?
Ben, écoute, il est... Quand tu sors un joueur de la rotation pour le protéger, il n'est pas parmi tes meilleurs.
Des mises en jeu.
Oui, c'est ça, mais c'est les mises en jeu, puis c'est le jeu dans le territoire. C'est parce que.
Mais tu trouves Pekka meilleur que Kotkaniemi, par exemple?
Ben non, il n'est pas meilleur. C'est pas un meilleur joueur. Il est peut-être plus efficace dans certaines situations, mais pas meilleur, mais non.
Donc autrement dit, l'hypothèse, à un moment donné, s'il performe à ce niveau-là, de s'en passer, c'est pas une option, parce que t'as pas meilleur pour le remplacer.
Ouais, ben c'est ça. Ben en fait, t'as pas meilleur. Là, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec ton jeune joueur, tu sais. Moi, je pense que c'est super important qu'un joueur offensif produise. Puis, s'il ne produit pas, à un moment donné, tu vas être obligé. Là, jusqu'à date, il s'acquitte de ses responsabilités. Mais je vais te ramener sur une déclaration à l'époque de Bob Gainey que j'avais bien aimé. Puis, il ne faut pas que ça arrive à Kotkaniemi. Il avait dit, il joue pour pas retourner dans les rangs mineurs. À l'époque, c'était pas Charity. Puis il dit, c'est pas bon pour lui. Il peut pas jouer comme ça. Alors, il faut pas que ça arrive à Kotkaniemi. Il faut qu'il continue de jouer comme un gars qui contribue offensivement et qui veut marquer des buts, ce qui ne s'est pas produit encore.
Fort intéressant, Danny. On se retrouve en direct du Centre Bell demain soir. Radou, peut-être pas en uniforme. Peut-être qu'il va être sa passerelle avec vous, avec nous autres. On va... Salut, Danny. Bonne soirée.
Bye bye.
On revient avec Philippe Quentin, notamment.